Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans les carnets du monde. Comment va la vie ailleurs sur la planète? Jusqu'à 14h, on va écouter le monde changer. À Wuhan, en Chine, épicentre de la pandémie qui nous bouleverse tous. Eh bien, à Wuhan, zéro cas depuis des mois. L'économie et le tourisme ont repris. Tout va bien. On ira ensuite en Côte d'Ivoire, à un mois de l'élection présidentielle. Les deux principaux candidats ont 78 et 86 ans, des vieux de la vieille, toujours les mêmes. Quand plus des trois quarts de la population a moins de 35 ans, ça coince. L'Afghanistan, 19 ans après la chute des talibans, les mêmes turbans blancs ont la main autour de la table des négociations. Et à Kaboul, ce sont les femmes, un peu trop indépendantes à leur goût, qui sont la cible de violence. On entendra le courage de ces Afghanes et en particulier une voix qui sans relâche plaide pour son pays et l'éducation des filles et des femmes. Chekeba Hashemi sera notre invitée. Eva Rock, elle viendra nous conseiller chaudement une série qui s'appelle No Man's Land. Quant à Joseph Chovanec, aujourd'hui, il s'intéresse aux fraudeurs, aux petits fraudeurs. Les carnets du monde sont ouverts. Juste le temps de faire un saut en Chine et on se retrouve. À tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Le monde entier connaît désormais cette ville de Chine d'où est parti le virus l'hiver dernier, Wuhan. Il y a quelques mois, c'était la ville la plus maudite. La première ville à avoir imposé un confinement strict de 76 jours à ses 11 millions d'habitants. Mais depuis quelques semaines, Pékin a laissé diffuser dans le monde entier des photos de foule, notamment dans un parc aquatique de Wuhan. La ville semble avoir retrouvé sa vie d'avant. Il y a même des touristes à Wuhan, incroyable. Reportage sur place de Sébastien Lebelzik.
Sur les hauteurs de la colline du Serpent, la tour de la Grue Jaune est le monument le plus célèbre de Wuhan. Depuis 2000 ans, elle accompagne l'histoire chaotique de cette ville. Depuis cet été, la tour se visite gratuitement, comme l'explique la responsable du site, Jiang Meng.
Nous avons même en ce moment 40% de visiteurs de plus que l'année dernière. Il y a actuellement 15 000 personnes par jour en moyenne. Notre maximum, c'est 25 000 personnes, comme nous sommes toujours dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Nous avons seulement une jauge de 50% par rapport à d'habitude. Et c'est toujours plein.
Et les touristes viennent de toute la Chine, comme Jiang Hua, qui vit à plus de 2000 km de Wuhan, dans le Shandong.
C'était pas comme je l'imaginais. En fait, il n'y a rien d'inquiétant ici. Grâce aux visites gratuites des sites touristiques, on peut venir ici à la tour de la Grue Jaune, visiter le jardin botanique de Wuhan et le parc de Moshan aussi, le lac de l'Est. Tout est gratuit.
Wuhan veut se refaire une beauté et tourner la page de l'épidémie. Les bars, les restaurants et les marchés de nuit sont pleins comme chaque week-end depuis la fin du déconfinement en avril dernier. Plus aucun nouveau malade n'a été détecté à Wuhan depuis le mois de mai. Mais le traumatisme de l'épidémie est toujours là, comme l'explique dans son cabinet de Wuhan où elle a exercé pendant toute la période du confinement la psychologue Chen Chen.
Leur peur principale est de sortir tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Il y a aussi des gens qui sont toujours très stressés quand ils oublient de mettre un masque. Mais depuis le dépistage généralisé, il y a moins de problèmes comme ça. Restent quand même les difficultés familiales et les problèmes financiers liés aux longs mois du confinement.
Li Rongjun, elle, n'avait pas peur. Cette quinquagénaire qui tient un café sur les bords de l'un des nombreux lacs de Wuhan se souvient des trois mois du confinement, quand avec un petit groupe de bénévoles, elle s'occupait de distribuer de la nourriture, des gants et des masques aux médecins et aux infirmières mobilisées 24 heures sur 24 dans les hôpitaux.
Quand les équipements de protection pour les équipes médicales sont arrivés à Wuhan à bord des camions, c'était dur de trouver des gens pour nous aider à les transporter depuis le dépôt jusqu'aux hôpitaux. Ils arrivaient juste à côté, donc ce sont des jeunes qui sont venus m'aider ici avec leurs amis.
Parmi eux, Zun Jun, un jeune vendeur d'assurance venu donner un coup de main aux bénévoles.
C'est comme avant de mener une bataille. On a peur, mais quand on est dedans, ça va. C'est pareil pour moi. J'avais peur dans la rue parce qu'il n'y avait personne. Mais quand j'arrivais à l'hôpital, après avoir livré les repas, je n'avais plus peur. Et maintenant, je sais que la ville n'est plus malade. Il faut remercier tous les habitants qui nous ont aidés, les militaires, les équipes médicales, tout le monde. Grâce à vous, la ville de Wuhan est comme aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne suis pas important.
Wuhan, comme toute la Chine, célèbre ce week-end la fête nationale. Une fête très particulière cette année pour cette ville tapissée de drapeaux rouges. Wuhan, devenue la vitrine de la victoire de la Chine sur l'épidémie, est aujourd'hui célébrée par la propagande chinoise pour l'incroyable résilience de ses habitants. Wuhan, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
Retour dans le studio ici à Paris et on est en ligne avec Pékin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sophie.
Vous venez de rentrer de Wuhan où la vie a repris, on l'a entendu, et on se demande évidemment comment ont-ils fait, quelles sont les recettes du zéro cas.
Alors il y a plusieurs recettes. D'abord le port systématique du masque, puis un confinement à Wuhan, on l'a entendu, qui a été certainement le plus strict de l'histoire. Il y avait interdiction formelle de quitter son domicile pendant 76 jours. Ensuite, il y a eu une campagne de dépistage massive. Tous les habitants de Wuhan ont été testés, c'est-à-dire plus de 11 millions d'habitants. Et puis le traçage électronique avec les applications santé, le QR code qu'il faut présenter à chaque déplacement en ville, dans le métro, dans le train, afin de pouvoir retrouver tous les cas contacts rapidement. C'est très efficace, puisqu'en revenant de Wuhan pour Pékin, par exemple, cette application santé m'a demandé de retracer quartier par quartier tous mes déplacements sur plus de 15 jours. Et puis peut-être une autre recette aussi, c'est la mise en place au plus fort de l'épidémie de ces centres pour les personnes fiévreuses, des centres gigantesques qui ont permis d'isoler dans des préfabriqués ou des bâtiments réquisitionnés des centaines de milliers de personnes. Une sorte de garde-triage en fait, pour séparer les malades du reste de la population en attendant leur hospitalisation éventuelle.
La face sombre, parce qu'il y en a une, au moins une, c'est l'arrestation des lanceurs d'alerte, ceux qui ont bousculé la version officielle.
Oui, il y a d'abord Li Wenliang, un médecin qui, dès le mois de décembre, avait averti ses collègues sur l'existence de ce nouveau virus à Wuhan. Il a été arrêté par la police et par la suite, il est mort du coronavirus. Pour beaucoup de Chinois, c'est un héros, mais il n'a pas été réhabilité par les autorités. Il y a aussi plusieurs blogueurs qui étaient sur place au moment de l'épidémie. Ils ont tous été arrêtés, là encore, et placés en résidence surveillée. Ils avaient filmé le début de l'épidémie sur les réseaux sociaux et montré cette panique dans les hôpitaux débordés. Et puis enfin, on doit parler de Fang Fang, une écrivaine de Wuhan qui a tenu au jour le jour un journal sur ces événements, un journal publié dans le monde entier maintenant, sauf en Chine évidemment. Un journal qui raconte aussi ce confinement terrible et surtout elle fait planer le doute sur le nombre réel de victimes. Le bilan pourrait être beaucoup plus important car les morts étaient immédiatement incinérés à Wuhan et on ne sait pas toujours de quoi ils sont morts.
Ouais, ce journal de Fang Fang, je précise qu'en France, il a été publié par Stock, il s'appelle Wuhan Ville Close. Et maintenant, Sébastien, tout va très bien, Madame la Marquise, dit la version officielle. Pourtant, tout n'est pas encore comme avant en Chine.
Alors, rien n'est vraiment terminé à Wuhan comme en Chine. Surtout, on attend essentiellement le vaccin ici qui pourrait être disponible dès le mois de novembre.
Ah bon ?
En attendant les mesures, le mois de novembre. En attendant les mesures, les recettes chinoises sont toujours plus que jamais d'actualité, c'est-à-dire confinement très strict dès qu'un cas est détecté, dépistage systématique. À Pékin, c'était 15 millions de personnes au mois de juin. Et le code QR santé qui est toujours d'actualité. Les personnes qui arrivent de l'étranger sont elles aussi toujours isolées 14 jours à leurs frais dans les centres ou des hôtels, testées puis retestées. Donc les frontières sont restées hermétiques et la Chine retient son souffle en espérant qu'une deuxième vague n'arrive pas cet hiver avant le vaccin. Mais preuve quand même de la confiance relative ici, les Chinois qui sont en vacances cette semaine prévoient de voyager en masse mais à l'intérieur seulement de la Chine. On annonce 550 millions de voyageurs en Chine cette semaine.
Ouais, c'est la fête nationale. Merci. Merci beaucoup Sébastien d'être retourné à Wuhan dès que ça a été possible pour nous raconter comment la vie reprend. À très bientôt dans les carnets.
Au revoir. Merci Sophie.
Et dans un instant, on prend la direction de la Côte d'Ivoire, moins d'un mois avant l'élection présidentielle sur fond de tension.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
L'élection présidentielle de Côte d'Ivoire aura-t-elle bien lieu le 31 octobre comme prévu? Certains commencent à en douter vu le climat de tension qui règne car le président sortant Alassane Ouattara, 78 ans, a décidé de se représenter pour un troisième mandat. L'opposition est vent debout car la Constitution le lui interdit. Son challenger, c'est un ancien président de la République âgé de 86 ans, Henri Konan Bédier. Il y a quelques jours, il a appelé à la désobéissance civile pour contester la validation de cette candidature par les plus hautes instances ivoiriennes. Bonjour François Hume.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondant en Côte d'Ivoire, vous êtes à Abidjan. Ces tensions préélectorales ont déjà provoqué une vingtaine de morts au mois d'août et tout le monde craint de voir ressurgir les violences qui avaient fait plus de 3000 morts en 2010-2011.
Oui, souvenez-vous, il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire a sombré dans une guerre qui a duré 6 mois. À la suite de l'élection présidentielle, 2 hommes revendiquaient la victoire, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Mmh. Les deux camps se sont fait la guerre. Il y a eu de très violents affrontements en plein centre d'Abidjan. Le conflit a aussi entraîné le déplacement de près d'1 million de personnes. Il a traumatisé la population. Aujourd'hui, les tensions politiques à la veille de l'élection réveillent ces mauvais souvenirs et c'est très perceptible à Abidjan.
Alors 40 des 44 candidatures à la présidence ont été invalidées par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, ça donne une idée du climat. Et donc les deux principaux adversaires dans cette élection ont 78 et 86 ans. Pas de perspective de renouveau pour la jeunesse ivoirienne dont on se dit qu'elle pourrait décider de l'élection, hein, puisque 77% de la population a moins de 35 ans. Et pourtant un jeune sur 3 seulement est inscrit sur les listes électorales.
Et même parmi eux, beaucoup n'iront pas voter. Certains confient avoir peur de sortir le jour de l'élection. Et surtout, beaucoup sont désabusés. Ils ont le sentiment que leur vote est inutile en raison des tripatouillages et de la triche organisée par les hommes politiques.
Alors, pour vous en rendre compte, vous êtes allé rencontrer des étudiants à l'université Félix Oumfouet-Boigny d'Abidjan.
Oui, à la pause déjeuner, je me suis installé avec un groupe d'étudiants en première année de philosophie sous une belle forêt de palmiers qui surplombe la lagune. Ils sont assis sur la pelouse en train d'étudier le banquet de Platon.
C'est la fille du ciel.
Ils ont entre 19 et 22 ans et en ce début d'année, ils aimeraient se concentrer sur leurs études. Mais à la veille du scrutin, ils sont inquiets. La direction de l'université les a prévenus. L'établissement va fermer ses portes au moment de l'élection. En 2010, ils étaient à peine sortis de l'enfance quand sont survenus les événements, comme ils disent. Ils se souviennent de la situation de chaos dans laquelle était plongé le pays.
Les événements qu'on a vécus en 2010 et 2011, on ne voudrait pas les revivre ça.
Il faut dire que ce sont les mêmes figures qui, depuis le décès même d'ailleurs du président Félix Houphouët-Boigny, qui sont même au fondement de tout ce que nous avons vécu depuis 2002-2010. Puisqu'ils ont des âges vraiment qui sont avancés, tu as fait tes deux mandats, ça suffit, il faut laisser la place aussi à la nouvelle génération, il ne faut pas abuser.
Vous l'entendez, ils en ont marre de ces vieux politiciens, les mêmes depuis 30 ans qui confisquent le pouvoir et qu'ils accusent de corruption et de malversation. Aujourd'hui, peu importe les partis, il y a une méfiance et un rejet de toute la classe politique.
C'est lorsqu'ils ont besoin de nous qu'ils viennent vers nous, essayer de nous balancer leurs projets et par la suite, quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le poste de président ou de gouvernant du pays, ils font comme s'ils n'avaient jamais parlé des choses. Et puis, bon, la jeunesse est toujours dans ces mêmes problèmes.
Alors, quels sont ces problèmes que rencontre la jeunesse, ces étudiants? Ils vous en ont parlé, François?
Oui, ils ne se sentent pas écoutés. Ils disent ne pas pouvoir revendiquer librement aussi. Et pourtant, à l'université, par exemple, les étudiants ont des demandes simples, les mêmes depuis des années.
Quand je parle d'éducation, je veux parler un peu de nos bibliothèques qui sont en défaillance. Il y a manque de bouquins. Il y a aussi manque de cité. Il y a des étudiants qui dorment dans les amphis. Et ça, ce n'est pas normal. Un étudiant qui dort dans les amphis ne peut pas prendre soin de lui et prendre soin de ses études. Ça, c'est inadmissible. Mais je pense qu'ils connaissent les réalités, mais seulement ils font semblant de ne pas faire face. Et nous ne voulons plus être manipulés. Nous voulons réaliser nos rêves.
Réaliser leurs rêves. Ils ne croient pas dans les politiques, ces jeunes, mais ils regardent quand même vers l'avenir.
Exactement, et on constate ces dernières années que le nombre d'associations de jeunes se multiplie. Il s'agit parfois de simples groupes Facebook informels, mais ce sont aussi des mouvements structurés qui luttent pour la scolarisation des enfants, l'environnement ou encore la consolidation de la paix. C'est le cas de Tournons la Page, une organisation qui milite pour une démocratie plus forte. Je suis parti en maraude dans le quartier de Yupougon-Jesco avec l'un de ses membres, André. Il a 29 ans.
J'ai voulu être dans une organisation apolitique. Pour faire comprendre à cette Côte d'Ivoire-là qu'il n'y a pas seulement que la classe politique. Il y a des civils, il y a des industriels, il y a des scientifiques. Et c'est toute cette population-là qui forme la Côte d'Ivoire.
Avec lui, je sillonne les ruelles dans ce quartier populaire. Les abris aux toits de tôle se succèdent. On passe devant une multitude de petits commerces, des coiffeurs, des tailleurs, des vendeurs d'électronique ou de vêtements. Les enfants jouent dans les pattes des adultes. Avec son t-shirt floqué du nom de l'association, André s'adresse tour à tour aux parents ou aux débrouillards, comme il se définit lui-même, ces jeunes qui vivent de petits boulots au jour le jour.
Quel est le projet politique qui a plu à quelqu'un ici?
À la fin de la journée, il organise avec ses camarades un débat dans le quartier, une tonnelle, quelques chaises en plastique et une sono de mauvaise facture. L'occasion de parler dans le calme de l'élection et de la situation politique dans le pays.
Pour être honnête, tous ces politiciens mènent tous le même combat. regardez un peu, quand ils viennent au pouvoir, pouf, ils sont bourrés des milliards. Et ils s'en foutent du peuple. Mais à quoi sert de voter? Celui qui est le plus fort, il vient au pouvoir. Et il fait ce qu'il veut.
Alors le constat est amer, mais André et Tournons la Page continuent de défendre l'idéal démocratique qui nécessite un long combat, disent-ils. Et alors que la campagne officielle va bientôt commencer, ils mettent aussi en garde contre les pratiques dangereuses des partis politiques qui ont pour habitude de proposer de l'argent aux jeunes des quartiers défavorisés afin de réaliser leurs belles œuvres, attaquer les militants adverses, briser une manifestation ou encore bloquer des routes. André nous le raconte.
Si moi je ne travaille pas, que tu me dis, bon, monsieur, je t'offre 10 000 francs pour venir à ma manifestation, ou je t'offre 10 000 francs pour aller faire telle chose, immédiatement c'est de l'argent, c'est que ça va me servir, donc je vais te suivre. Alors que si je travaillais, tu peux me manipuler, parce que je serais indépendant.
En Côte d'Ivoire, l'offre politique est décevante, voire révoltante pour ces jeunes qui aspirent à plus de sérénité, de liberté, d'opportunité. La volonté du président Ouattara de se présenter à un troisième mandat a mis de l'huile sur le feu. Malgré tout, ils sont nombreux à se mobiliser pour favoriser l'apaisement et empêcher le pays de sombrer dans un nouveau conflit.
Merci beaucoup François pour ce coup de projecteur sur la jeunesse ivoirienne. À moins d'un mois de cette élection, pas très enthousiasmante pour eux. Je rappelle que les moins de 35 ans représentent plus des trois quarts de la population en Côte d'Ivoire. Merci François, à bientôt.
Merci, à bientôt.
No Man's Land, rien à voir avec la Côte d'Ivoire, c'est le nom d'une série télé qu'il ne faut pas rater, paraît-il. Parole d'Eva Rock qui nous rejoint dans un instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Une série dans le monde, c'est notre rendez-vous culturel dans les carnets, cette semaine en compagnie d'Eva Rock. Bonjour Eva.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors grâce à vous, on découvre des séries qui racontent le monde. Et cette semaine, c'est une série d'Arte qui a retenu votre attention. Elle nous emmène en Syrie, en Égypte, en Turquie et en Angleterre.
Exactement Sophie, mais alors c'est un voyage sans retour pour la plupart des personnages de cette série franco-israélienne en 8 épisodes qui est intitulée No Man's Land. C'est une série chorale qui débute avec l'histoire d'Antoine, c'est un jeune ingénieur parisien. Sa sœur Anna, dont il était très proche, a été tuée dans un attentat au Caire quelques années auparavant. Sauf que lui, il ne se résout pas à l'idée que Anna soit morte, il ne croit pas à cette version. Et d'ailleurs, sur une vidéo tournée en Syrie au milieu de combattantes kurdes, il est convaincu de la reconnaître, il quitte alors Paris pour la Syrie. Et quelques heures après son arrivée, il est enlevé par des femmes kurdes du groupe YPG.
Qui c'est qui t'envoie? T'allais où?
Je parlais français. Faut que vous m'aidiez. Les autres, elles se plantent complètement.
Je t'ai posé une question, qu'est-ce que tu fous là?
Je suis venu chercher ma sœur. Elle est avec vous, avec le YPG. Elle s'appelle Anna. Et son nom ici, c'est Chamaran.
T'as fait une belle connerie en venant ici. C'est vraiment pas le bon jour pour rejoindre Daesh.
Pourquoi parle-t-elle de Daesh?
Parce que pour elle, elle s'appelle Saria, cette héroïne. Le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui combattent pour Daesh et ceux qui sont aux côtés de ses sœurs kurdes. Et ce Français, il a été attrapé dans une voiture conduite par des djihadistes. Donc, c'est un ennemi. Sauf qu'Antoine, il va parvenir quand même à convaincre Saria de son histoire. Et le voilà embarqué, bien malgré lui, dans un quotidien rythmé par les combats.
Avec mon unité, on est tout le temps ensemble. Un regard, un geste, ça nous suit pour nous comprendre. Donc toi, tu la fermes et tu restes discret. Ok?
Compris.
Et c'est 8 heures de marche. Ça va être très dur.
Ça va, je suis en forme.
Ferme-la, j'ai pas terminé. En forme? On n'est pas dans une salle de gym à Paris, ici. Si on t'emmène avec nous, c'est seulement parce qu'il n'y a rien à craindre de Daesh là-bas.
Ça me rappelle un reportage de Didier François l'an dernier dans les carnets sur ce sujet-là, avec ces femmes-là.
Oui.
Est-ce que la description de ce quotidien est réaliste, justement?
Alors, moi, je la trouve totalement réaliste, parce qu'au-delà des scènes de guerre qui sont extrêmement bien réalisées, en fait, la série ne cède jamais au manichéisme. On n'est pas avec les bons et les méchants. Il n'y a pas les méchants et les gentils. Voilà, tout est bien plus subtil. Il y a une finesse avec laquelle les auteurs de la série abordent la psychologie des personnages qui est absolument remarquable. Le propos de la fiction est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi Antoine, Saria, qui est d'origine kurde mais qui a grandi en France, mais aussi ce Marines américain ou encore ces trois Britanniques qui ont été élevés dans une cité d'une ville ouvrière d'Angleterre, se retrouvent tous sur ce terrain de guerre, dans un camp ou dans un autre d'ailleurs. Est-ce que c'est leur foi, leur religion qui sont les premiers motifs de leur engagement? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi s'engager? Extrait d'une conversation entre Antoine et Saria.
C'est interdit?
Aucune forme de relation amoureuse. Pour les hommes, pareil.
Ça dure combien de temps, ça?
Il n'y a pas de limite, l'engagement, c'est à vie.
C'est rude, ça, c'est... C'est un sacrifice comme de pas avoir d'histoire.
Ah ouais? C'est un sacrifice de pas se soumettre à un homme.
Arrête, si tu partages ta vie avec quelqu'un que t'aimes, c'est pas de la soumission, c'est pas être respectueux.
Et t'as eu du respect quand t'es venu ici sans rien dire à ta femme?
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, oui, peut-être, mais enfin, il y a quelques petits trucs comme ça, quand même comme ça qui les unit. No Man's Land, c'est à la fois un thriller, un film d'espionnage, un drame familial, mais c'est surtout un regard posé sur le monde. Moi, j'ai été bouleversée par chacun des personnages, par leur complexité et leurs doutes, et ce sont des femmes et des hommes dont le retour quand même à leur vie d'avant, en tout cas, semble impossible. Et c'est cette question du retour, à la fois sur un plan psychologique, mais aussi juridique, hein, qui est omniprésente tout au long des 8 épisodes.
Qui interprète ces personnages ?
Alors, des acteurs absolument éblouissants. Félix Moati dans le rôle d'Antoine, Mélanie Thierry dans celui d'Anna, Souheila Yacoub qui incarne Saria, et tous les autres comédiennes et comédiens sont tous parfaits, ça mérite d'être souligné. La série sera diffusée sur Arte au mois de novembre, mais en fait, elle est déjà disponible gratuitement sur le site arte.tv, et vous avez même jusqu'au mois de mai pour la regarder. Donc super. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne l'avez pas vue, c'est pas possible.
Chouette, on va y aller. Merci beaucoup Eva. No Man's Land, donc, c'est sur Arte. Et puis je rappelle que Sériland, ce sont deux podcasts sur les séries que vous nous proposez chaque semaine avec une belle équipe et produit par Europe 1 Studio. On trouve ça sur toutes les plateformes de podcast, d'écoute et puis sur europe1.fr.
Tout à fait.
Merci beaucoup Eva.
Merci
très vite.
Sophie.
Et c'est en Afghanistan qu'on file dans un instant, un pays où les femmes sont toujours ciblées par les islamistes. Vous allez entendre leur courage.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Ce sont des négociations de paix historiques qui se sont ouvertes à Doha, au Qatar, le 12 septembre dernier. L'enjeu est immense, mettre fin à 19 ans d'une guerre qui a enfoncé un peu plus l'Afghanistan, malgré la présence américaine. Autour de la table des discussions, les talibans qui contrôlent plusieurs régions du pays et une délégation hétéroclite de représentants de l'État afghan et de diverses factions. L'enjeu est immense, enjeu de paix bien sûr, mais pour quelle société ? C'est une question cruciale pour les femmes en particulier. Les Afghanes qui, si elles sont engagées, sont aujourd'hui des cibles. On va en rencontrer quelques-unes et entendre leur courage grâce à Margot Ben à Kaboul. Reportage.
Nous sommes dans un hôpital de Kaboul, celui-là même qui avait été attaqué avec la maternité MSF en mai dernier. Des hommes armés y avaient massacré des femmes enceintes, des bébés et des sages-femmes. Les murs portent encore les stigmates de cette violence, le mobilier est criblé d'impacts de balles. Fawzia Raouf est une petite femme ronde d'une quarantaine d'années. C'est la chef des sages-femmes. Et, comme elle le raconte, le cauchemar ne s'est pas arrêté à la fin de l'attentat.
Après l'attaque, j'ai été interviewée par la télévision locale. Et le lendemain, j'ai reçu un appel anonyme. Un homme m'a dit « Nous t'avons vu à la télévision, comment oses-tu montrer ton visage comme ça ? Nous te trouverons et nous nous occuperons de ton cas. »
Comme de nombreuses femmes afghanes qui travaillent ou osent exprimer trop fort leurs idées féministes, Fawzia Raouf est habituée à recevoir des menaces de mort.
D'habitude, je reçois ce type d'appel parce que je travaille avec une organisation internationale. Mais toutes les excuses sont bonnes. Nous, les femmes, on est toujours en danger, quoi qu'on fasse. Les extrémistes voudraient qu'on ne travaille pas, qu'on ne passe pas à la télévision et même qu'on ne sorte pas de chez nous.
L'Afghanistan est l'un des pays au monde les plus dangereux pour les femmes. Mais ces dernières semaines, le danger est particulièrement palpable. Plusieurs femmes, connues pour leurs revendications féministes, ont été victimes d'assassinats ciblés ou de tentatives de meurtre, en pleine rue, dans la capitale. Au point que l'ambassade des États-Unis vient de publier une note sécuritaire appelant les femmes afghanes à redoubler de vigilance. Fatima est une jeune femme de 24 ans, aux longs cheveux lisses et à l'allure soignée. Nous nous retrouvons un matin dans un café branché dissimulé derrière une large porte en métal. C'est ici qu'il y a quelques semaines, elle a vu l'une de ses meilleures amies pour la dernière fois. Elle avait le même âge, s'appelait aussi Fatima, mais préférait qu'on la nomme Natacha. 3 jours plus tard, une bombe magnétique placée sous son véhicule l'a tuée sur le chemin du travail.
On ne s'inquiétait pas de ce qui pourrait nous arriver. Nous avions le privilège d'étudier à la prestigieuse université américaine d'Asie centrale à Bishkek. Et il nous paraissait normal de rentrer dans notre pays pour travailler pour les femmes qui, elles, n'avaient pas eu le même accès à l'éducation. Nous avons atterri à Kaboul le 23 septembre 2019. Elle est entrée à la Commission des droits de l'homme et puis moi, j'ai pris mon poste au ministère des Finances. En ce moment, on devrait être en train de fêter notre premier anniversaire de travail.
Aujourd'hui, la jeune femme est traumatisée. Son visage se crispe, s'assombrit à mesure qu'elle évoque son amie.
D'abord, j'ai cru que Natacha avait été blessée dans un accident. Ma première pensée a été, et si elle perdait un membre ? C'est une fille très coquette qui adorait s'habiller à la mode. J'ai pensé, et si elle essaie des vêtements et qu'elle n'est plus jolie? Puis lorsqu'une amie m'a annoncé que Natacha était morte, je n'ai pas su quoi faire. Je pleurais, je n'arrivais pas à parler. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à croire qu'une personne si innocente, si belle, puisse être privée de vie en quelques instants.
L'attaque n'a pas été revendiquée, mais Natacha a été délibérément choisie. Fatima n'a aucun doute là-dessus.
Ils l'ont ciblée parce qu'elle travaillait pour la Commission des droits de l'homme, parce qu'elle défendait les droits des femmes, parce qu'elle était grande gueule et peut-être tout simplement parce que c'était une femme. Depuis ce qui s'est passé avec Natacha, lorsque je me rends au bureau le matin depuis chez moi, mon esprit est consumé par le fait qu'à chaque moment, il pourrait se passer quelque chose. J'évite aussi de trop sortir parce que j'ai peur de ce qui pourrait se produire. Je rentre aussi tous les soirs avant 17h. Je porte toujours avec moi ce sentiment de danger, pour moi ou pour mes amis. Et c'est un peu lourd à porter.
Je quitte Fatima, direction un immeuble du centre-ville où est installée une société de production. Emal Zaki me reçoit dans son bureau. Il est cinéaste, tout comme sa femme, Sabah Sahar, la toute première réalisatrice afghane. Mais aujourd'hui, Sabah n'est pas là. Le 25 août, des hommes armés ont tiré à bout portant sur la voiture qui l'emmenait au travail. Elle a reçu 4 balles dans le ventre.
Ce matin-là, je m'occupais des enfants avant de les emmener à l'école. Ma femme venait de partir. Soudain, j'ai entendu des tirs près de chez nous. J'ai téléphoné à Sabah, qui m'a aussitôt répondu qu'elle avait été attaquée. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvée ensanglantée, ainsi que son chauffeur et son garde du corps. Dans la voiture, il y avait aussi l'un de nos enfants, âgé de 4 ans.
Aujourd'hui, Sabah Sahar est calfeutrée dans l'hôpital militaire américain, en banlieue de Kaboul. Pour préserver sa sécurité, elle n'a aucun contact avec le monde extérieur. Même son mari n'a pas le droit de lui rendre visite.
Ma femme a réalisé et joué dans des films sur les droits des femmes, la corruption, et elle condamnait les injustices. En plus de ça, elle est officier de police. Je pense que c'est pour cette raison-là qu'elle a été attaquée.
Comme dans les cas de Fauzia, la sage-femme, et de Natacha, les auteurs du crime restent inconnus. Mais Emal en est persuadé, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, leur mentalité est celle des talibans.
Certains pensent que les talibans ont changé depuis les années 90, mais ce n'est pas le cas. Selon moi, ils ne se sont pas modernisés. Et dans leur idéologie, il n'y a aucune place pour la liberté des femmes.
Depuis le 12 septembre, talibans et gouvernement afghan négocient à Doha. En cas d'accord de paix, les turbans blancs pourraient réinvestir, au moins en partie, la scène politique, sans aucune garantie pour les droits et les libertés des femmes. À Kaboul, Margot Ben, Europe 1.
Bonjour Margot Ben.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
On vous retrouve en ligne depuis Kaboul. Je voulais que vous nous précisiez un peu l'impact de ces négociations historiques pour les Afghanes, sur leurs droits, leur sécurité, dont on voit à quel point elle est menacée.
Oui, alors beaucoup d'Afghanes, en particulier celles qui habitent la capitale, qui travaillent, étudient, sont émancipées, redoutent que le gouvernement ne signe cet accord pour mettre fin au conflit aux dépens de nombreux acquis obtenus depuis 2001. Les talibans, eux, ont l'avantage militaire sur le terrain, ils n'ont pas de difficulté à recruter de nouveaux éléments et ils ne signeront probablement pas un accord qui ne les satisfait pas tout à fait. Et leur projet, leur idéologie reste bien ce qu'ils appellent un émirat islamique qui accorde peu, voire pas de liberté aux femmes. Alors bien sûr, certains pensent que les talibans ont changé, que s'ils venaient à réinvestir la scène politique, ça ne voudrait pas forcément dire un retour aux lapidations publiques et autres horreurs des années 90 lorsqu'ils s'étaient emparés du pouvoir. Mais pour l'instant, impossible de savoir vraiment ce qu'il adviendrait en cas d'accord. Et c'est vraiment cette incertitude qui inquiète les femmes.
En deux mots, Margot, des femmes participent aux négociations ou pas?
Eh bien, côté gouvernemental, il n'y a que 4 femmes pour 17 hommes. Quant à la délégation talibane, elle est exclusivement masculine.
Évidemment. Merci Margot, merci de nous avoir permis d'entendre ces femmes formidables et prenez soin de vous.
Au revoir.
Au revoir, on va poursuivre cette exploration de la situation afghane dans quelques instants avec Shekeba Hashemi, franco-afghane et présidente de l'association Afghanistan Libre.
Les carnets du monde sur Europe 1.
Sophie Larmoyer.
L'Afghanistan est-elle en train de vivre un tournant de son histoire? Des négociations souvent qualifiées d'historiques ont débuté le 12 septembre entre le pouvoir en place et les insurgés talibans. Des négociations voulues par les Américains qui cherchent à créer des conditions acceptables à leur départ après 19 ans de présence dans le pays. 19 ans de guerre aussi. Bonjour Chekeba Hachemi.
Bonjour.
Je voulais qu'on entende, après le reportage de Margot Ben, ses explications, je voulais qu'on entende votre perception de ce moment pour l'Afghanistan. Vous qui connaissez si bien le terrain, vous êtes franco-afghane, ancienne diplomate à Kaboul et vous présidez Afghanistan Libre, une association que vous avez créée en 1996 pour assurer l'accès à l'éducation, à la formation et à la santé du plus grand nombre possible de filles et de femmes en Afghanistan. Donc cette question des femmes dont on parlait avec Margot, vous la connaissez très bien et de près. Depuis le début des négociations, on va peut-être parler un tout petit peu de ça d'abord.
D'accord.
Censé créer ces conditions de paix, les attaques se sont multipliées sur le terrain. 20 attaques en 3 jours, juste après le 12 septembre. La semaine dernière, encore une centaine de morts dans 2 attaques de talibans contre des centres de l'armée et de la police. C'est une manière pour les talibans de montrer qu'ils gardent la main et de mettre la pression sur les discussions de, entre guillemets, réconciliation nationale.
C'est une manière très claire d'expliquer qu'il n'y a pas de négociation. Déjà, le terme négociation, pour moi, c'est un mauvais terme. Ils ont la main, ils sont en train de tuer un maximum de personnes, ils sont en train de cibler le policier, le jeune homme qui va le matin, la fille qui va à l'école, la jeune femme qui va travailler, les cinéastes, toute la couche de la population. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait longtemps que ce n'est pas la communauté occidentale, c'est vraiment la population afghane pour bien montrer qu'on a la main et qu'on ne négocie pas et que de toute façon, nous sommes les plus forts.
La population, toute cette société civile dont vous parlez, elle est épuisée par ces 19 années de guerre. Et en même temps, ces 19 années, depuis la chute des talibans provoquée par les Américains en 2001, ces 19 années sont aussi synonymes de progrès pour la société.
Alors moi, je vous dirais 40 années de guerre, parce qu'on oublie, ouais. Je pense que les auditeurs ont besoin d'entendre quand même que...
pour monter à l'occupation soviétique.
Exactement, donc il y a quand même 40 années de guerre derrière. Donc ce qui dit 40 années de guerre dit aussi toute la faiblesse d'un gouvernement en place. Donc le pays s'est vidé aussi plusieurs fois de son cerveau, donc ça veut dire que très peu de gens qui restent pour reconstruire. Et tous ceux qui sont là, donc il faut les soutenir. Effectivement, aujourd'hui, la fatigue se fait ressentir parce qu'il y a toute une génération. Moi, par exemple, je suis née avec cette guerre. Donc, il y a toute une génération qui a vécu que cette guerre-là et qui sont aujourd'hui des adultes et nos enfants vont vivre avec la guerre dans ce pays. Et que la fatigue se fait ressentir aussi, je dirais, de manière beaucoup plus humaine ces dernières années. Parce que vous savez, vous qui êtes une fidèle de notre cause afghane et merci de me donner la parole encore une fois, c'est que aujourd'hui, ce qui est terrible pour les Afghans, c'est que, vous savez, les kamikazes, c'est pas un phénomène afghan, c'est-à-dire que depuis des années, on se fait tuer parce que les gens se donnent la mort pour tuer ses autres frères et sœurs musulmans, entre guillemets, puisque voilà. Et ça, c'est quelque chose qui passe pas dans la tête des gens et dans la mentalité afghane. Vous savez, nous nous sommes battus pendant 15 ans contre l'armée soviétique. Personne n'est jamais, aucun afghan ne s'est tué pour tuer des Russes. Ça ne rentre pas dans notre chemin de pensée. Donc ça, c'est ça, je pense, qui rend vraiment la population aujourd'hui totalement démunie parce qu'il n'y a pas, en face, on voit pas l'ennemi pour se battre. Donc on se bat contre des gens, contre un idéal qui a envie juste de nous détruire.
Alors vous, Chekeba Hachemi, avec vos équipes à Paris et beaucoup en Afghanistan, vous vous battez pour que les filles aillent à l'école, pour que les tout-petits aient des crèches, pour que les femmes aient des maisons des femmes et pour qu'elles aient accès à la formation, à la santé, à l'éducation, à la santé. Vous avez créé là-bas 14 écoles, 5 crèches, 3 bibliothèques, 4 maisons des femmes. Toutes les équipes qui sont sur le terrain, est-ce qu'elles sont toujours aussi motivées pour continuer malgré cette perspective d'un retour des talibans peut-être, malgré les dangers ?
Écoutez, nous, on est une population, justement, ce que je disais tout à l'heure, 40 années de guerre, c'est aussi apprendre dans la survie. Ça me rappelle aussi un peu ce que j'ai vu au Liban, ailleurs. Quand il y a autant d'années de guerre, on apprend aussi la survie. Et ce qui est formidable avec les Afghans, c'est que c'est un peuple optimiste. Un peuple qui croit en l'avenir, et ça, c'est formidable. Sinon, jamais moi, une Parisienne, une Afghane de Paris, ne serait battue autant d'années à leur côté si on voyait que de l'autre côté, ils baissaient les bras. Ils ne baissent pas les bras, et c'est compliqué pour moi de ce côté-là de me dire, est-ce qu'on a le droit de les envoyer exercer, ces femmes, ces institutrices, ces filles, aller à l'école, alors qu'il y a tous les jours des kamikazes? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et en même temps, en discutant chaque semaine avec
chaque
eux,
semaine, vous leur demandez s'ils ont toujours aussi envie?
Exactement. Et ce qui l'emporte, c'est quand même cette phrase qui est tant qu'on continue à travailler, aller à l'école, que nos enfants continuent, la vie continue. Donc, tu ne vas pas nous mettre entre quatre murs pour nous enterrer vivantes. Et ça, je trouve que c'est formidable de voir ces personnes. Ça me rappelle toujours l'histoire de Nadia, quand l'année dernière, j'étais en Afghanistan et que le matin, en partant à l'école, elle embrassait tellement fort sa petite fille que je me moquais d'elle et qu'elle me disait, je ne sais pas si le soir je vais la retrouver, mais je vais quand même aller enseigner à l'école. Donc, c'est ça aussi,
c'est le
Afghanes.
Quotidien, ça.
Voilà. C'est le quotidien. Et nous, toutes nos écoles, toutes nos maisons de femmes continuent. Et tant que elles sont là et qu'on fait avancer le schmilblick, comme dirait l'autre, eh bien on avance et on est là et on est vivante.
Dans quelle mesure vous craignez un retour en arrière? Il faut rappeler peut-être ce qu'étaient les talibans en 2001.
Alors on oublie totalement, et merci de la rappeler, merci de pas oublier que les talibans c'était aussi toutes ces règles qu'on n'a pas le temps ici d'énumérer, mais c'est la suppression totale de la femme, de la scène, de la vie sociale, politique, ouais. Économique. C'était ces scènes de femmes qu'on voyait sur le stade public de Kaboul se faire assassiner parce qu'elles avaient des écoles clandestines ou autres. Donc c'est ça, les talibans, ils n'ont pas changé en 19 années. Ils ont un peu reculé aux pays voisins, au Pakistan. Ils reviennent en renfort aujourd'hui. Et la preuve, dès qu'ils ont un village, ils font exactement ce qu'ils faisaient en 96.
Parce qu'on entend parfois certains dire « mais les talibans ont changé, ce ne sont pas les mêmes qu'en 2001 ». Vous qui êtes sur le terrain où toutes vos équipes le sont et vous y allez régulièrement, qu'est-ce que vous en dites de ça ?
Eh bien, je dis que c'est une aberration totale. Je compare ça, peut-être que ce n'est pas comparable, mais le nazisme modéré, ça me fait la même... Enfin voilà, c'est exactement la même chose. Pour moi, les talibans n'ont pas changé. C'est exactement les mêmes.
Ils ont la même idéologie aujourd'hui ? Ils l'expriment ?
Ah oui, alors ils ont peut-être changé, ils ont amélioré, ils ont modernisé, puisque maintenant ils ont tous les moyens digitaux, etc., pour encore plus de propagande terroriste, et que c'est la seule chose qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont peut-être appris à mieux communiquer. Alors c'est vrai que nous sommes en Occident, dans les pays de communication, donc on est vite pris un peu au piège du changement de ce régime, qui est pour moi le régime le plus totalitaire et terroriste.
Pour vous qui avez fui votre pays à 11 ans, en tong, à pied, dans les montagnes, avec un passeur pour rejoindre votre mère au Pakistan, pas question de lâcher aujourd'hui.
Pas question de lâcher aujourd'hui. Pour moi, ça me rend triste de venir ici sur votre plateau parler de la même manière qu'il y a 20 ans, parce que on m'invitait sur ces plateaux-là pour me donner la parole pour dénoncer le régime taliban, le régime le pire pour les femmes dans le monde. Aujourd'hui, me répéter, ça me rend triste. J'aurais préféré ne pas avoir ce discours à faire, mais on ne lâchera pas, et les Afghanes là-bas, je ne suis que la partie visible de l'iceberg, elles ne lâcheront pas au quotidien.
Merci beaucoup, 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 Chekeba Hachemi, et je renvoie vers votre association qui a un site, www.afghanistan-libre.org. Tous ceux qui veulent aider pour les écoles, tous les projets que vous portez peuvent le faire en passant par ce site.
Je vous remercie beaucoup.
On marque une courte pause et on retrouve Joseph Chovanec qui nous emmène en Outistan.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
L'Outistan, c'est un nom que Joseph Chovanec a créé, celui d'une contrée où l'on regarderait le monde autrement, et il nous y emmène chaque dimanche. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Le regard que vous partagez avec nous est riche de vos expériences de philosophe, autiste Asperger et bien sûr de grand voyageur. Et vous m'avez dit que vous vouliez aujourd'hui nous donner des trucs pour contourner les lois. Ce n'est pas très politiquement correct.
Ah Sophie, rassurez-vous, je ne parle pas de la grande criminalité, je parle des petites adaptations de tous les jours. Alors, quand on est autiste, on met du temps à découvrir ces petits secrets du monde. Mais justement, c'est riche d'enseignements.
Quels sont ces petits arrangements avec les lois alors ?
De tous les types de fraudes, celui que je peux observer le plus facilement, c'est bien sûr la fraude dans les moyens de transport, train, bus. Frauder dans l'avion, c'est plus compliqué. Ceci étant, dans plusieurs pays du monde, on utilise encore les tickets papier, une feuille où on inscrit votre nom, etc. Et donc, on devrait pouvoir falsifier cela. Ceci étant, je crois que dans les pays où on utilise encore le billet papier pour l'avion, eh bien, la fraude ne fait pas partie du paysage. Voilà. En Nouvelle-Calédonie, pour les vols intérieurs, j'avais encore connu ces billets complétés à la main. Au Yémen, peu avant l'implosion, c'était carrément un bout de papier de récup. La guerre, évidemment, cause des pénuries terribles. Mais on pensait justement à autre chose qu'à frauder. Pour ma part, j'avais très peur qu'avec mon bout de papier de récup, on ne me laisse pas embarquer. Mais je crois qu'en fait, on m'a laissé embarquer même sans billet du tout.
Et alors, dans les trains et les bus, il y a des contrôleurs souvent.
Mais dans certains pays, je crois qu'on ne contrôle pas. Au Liechtenstein, Bretagne, la première fois que j'avais pris le bus, je ne savais pas si je devais montrer mon billet ou pas. Hein. Je lui ai donc demandé au conducteur, il m'a répliqué, si vous avez un billet, inutile de le montrer. Je suis resté songeur dans la porte un long moment. Hein. Dans certains pays, on évite de contrôler les étrangers. J'ai pu le voir en Iran, mais aussi en Oman, voire dans les trains égyptiens. Les policiers ou les agents des transports souvent sautent votre tour, ils sont gênés, hein, sans rien vous demander.
Mais pourquoi ? Parce que les étrangers sont d'emblée considérés comme honnêtes ?
Je crois qu'on est plutôt réticent à demander paiement à un étranger, c'est-à-dire un invité. Hein. Ah. Ces gens-là voient le pays comme une sorte de grande famille et on ne fait pas payer l'invité de la famille. Dans certains pays, on ne fait pas payer ni ne contrôle les femmes. Hein. Il s'agit d'un héritage soviétique, je crois, oui. Dans les pays de l'ex-URSS au sens large, je me souviens d'une dispute vive, en tout cas longue, entre une femme russophone d'un certain âge et une contrôleuse dans un train en Estonie. La dame russophone, bien sûr, sans billet, répétait que c'était une honte de contrôler les passagères. Elle avait sans doute pratiqué le système soviétique toute sa vie. Et à l'inverse, la contrôleuse parlait des nouveaux usages estoniens. Bon, en Iran, c'est plus ou moins pareil. À Téhéran, on place les femmes dans la partie arrière du bus et donc elles ne passent pas devant le chauffeur et donc ne payent pas. Plus curieux, dans les pays où il y a des compartiments pour autistes dans les trains, je pense mettons à la Finlande, le contrôleur ne vérifie pas les billets des gens assis dans le compartiment à autistes. Peut-être parce qu'il croit que les autistes sont honnêtes, ce qui est parfois faux. Mais il y a une loi générale. Si on contrôle beaucoup dans les capitales, plus on arrive dans les zones reculées ou sauvages, moins le contrôle est fort.
Bah, déjà, il y a moins de bus.
Oui, mais surtout, on fait confiance aux gens, je crois. Hein. Dans le Grand Nord, par exemple, dans les parties septentrionales peu peuplées, côté suédois, côté norvégien ou autre, ça me touche beaucoup à chaque fois. Dès lors que la nature est rude, quand il y a peu de gens, chaque être humain est estimable, compte. Hein. Ouais. Il n'y a pas de faux semblants, de fausse hiérarchie. En vérité, il est temps de passer à table. Je l'avoue, j'ai fraudé, mais à culpa. Hein. Justement, dans un bus du Grand Nord, je pensais que le conducteur allait passer pour vendre ses billets. Hein. J'ignore si je dois y retourner pour lui rendre l'argent. Ceci étant, ce pourrait être un chouette motif de voyage pour retourner en Laponie.
La bonne excuse, Joseph. Bon, allez, l'intention n'était pas la fraude. Ça vous démange les voyages quand même, hein ?
Absolument.
Ouais. Merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain.
À tout bientôt.
On referme les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés dans nos vadrouilles du jour. Émission réalisée par Marc Fréjean, préparée par Marion Gauthier. Merci à eux.